Bonjour, au micro Idrissa Sidoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Aucun rassemblement traditionnel n'était prévu pour aujourd'hui à l'occasion de la fête du travail, jour férié dans de très nombreux pays du monde, avec des exceptions comme les États-Unis, et ce en dépit de premières mesures de confinement, de déconfinement en Europe, où le coronavirus est à l'origine d'un désastre économique d'ampleur inégalée, tout comme aux États-Unis. Au total, plus de 30 millions d'Américains ont fait une demande d'allocation chômage depuis la mi-mars, un record historique. Le président américain Donald Trump a dit jeudi envisager des taxes punitives contre la Chine après avoir vu des éléments lui permettant de penser que le nouveau coronavirus proviendrait d'un laboratoire chinois à Wuhan, récemment accusé de manque de transparence. Dans un instant, nous verrons avec Ekia Barou ce qu'en pensent eux-mêmes les services secrets américains. La pandémie a fait à ce jour au moins 230 000 morts dans le monde selon un bilan de l'AFP. Les États-Unis sont de loin le pays le plus touché avec plus d'un million de cas et près de 63 000 décès, mais l'Europe a payé le plus lourd tribut à la maladie avec 27 967 morts en Italie, 26 711 au Royaume-Uni, 24 543 en Espagne et 24 376 en France. La directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, le docteur Matshidiso Moeti, a appelé hier les pays du continent à maintenir entre autres des mesures fortes de surveillance, de détection des cas et de tests pour lutter contre la propagation du COVID-19. Pour elle, le virus demeure une menace considérable pour la santé. Pour la santé publique, malgré les progrès enregistrés. En Afrique, où l'on compte plus de 36 000 cas confirmés et plus de 1 500 décès, certains pays ont commencé à lever des mesures de confinement. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a prolongé jusqu'au 15 mai le confinement en vigueur dans le pays et jusqu'au 10 mai l'état d'urgence. Il a également décidé la mise en œuvre à grande échelle du test de dépistage et le port obligatoire du masque pour toute personne présente dans les espaces publics fermés ou ouverts. Le Congo-Brazzaville a recensé 220 cas, dont 9 décès et 19 guérissons. La Guinée équatoriale a prolongé en dernière minute le confinement total des deux plus grandes villes, Malabo et Bata, et les autres mesures visant à limiter la propagation du coronavirus par un décret du Premier ministre. La Guinée équatoriale décompte officiellement 315 cas depuis le début de l'épidémie. L'Afrique du Sud a commencé vendredi à lever progressivement le confinement imposé depuis 5 semaines à ses 57 millions d'habitants en autorisant le lent redémarrage d'une petite partie de son économie en crise. Avec plus de 5 600 cas et une centaine de morts officiellement répertoriés, le pays le plus industrialisé d'Afrique subsaharienne et aussi de loin le plus touché par le COVID-19. En République centrafricaine, au moins 25 personnes, dont 21 civils, ont péri dans des combats entre factions rebelles rivales dans le nord-est. Le porte-parole du gouvernement a évoqué jeudi une attaque contre des civils à Ndélé, sans préciser de date, tandis qu'un responsable de l'ONU parle de combats mercredi entre factions ethniques rivales issues d'un même groupe armé. Selon des travailleurs humanitaires sur place, il s'agirait du FPRC qui a connu une scission il y a plusieurs mois. En Libye, fort de ses récents succès sur le terrain, le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli a rejeté jeudi la trêve unilatérale annoncée par son rival, le maréchal Khalifa Haftar. Le GNA affirme ne pas faire confiance à l'homme fort de l'Est libyen qu'il accuse d'avoir violé plusieurs trêves depuis le début de son offensive contre Tripoli le 4 avril 2019. suite de nos informations, en Côte d'Ivoire, les deux principaux partis d'opposition, le PDCI de l'ancien président Henri Konan Bédié et le FPI de l'ex-président Laurent Gbagbo, ont signé hier à Abidjan un accord politique à 6 mois de la présidentielle. Le point avec Eric Manirakiza.
Les deux partis ont pris l'engagement commun à œuvrer de concert pour le retour de la paix, de la réconciliation et rendre transparent le processus électoral. Ils ont déjà assuré qu'ils présenteront tous deux des candidats à la présidentielle d'octobre prochain. L'ancien chef rebelle Guillaume Soro, ex-allié du président Alassane Ouattara, a déjà annoncé sa candidature, mais vit en exil en France et mardi, il a été condamné par un tribunal ivoirien à 20 ans de prison pour recel de détournement de fonds publics. Alassane Ouattara ne se représente pas. Un des proches, l'actuel Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a été désigné candidat du RHDP au pouvoir. L'éventuel retour de Laurent Gbagbo en liberté conditionnelle en Belgique reste la grande inconnue. La date butoir pour le dépôt des candidatures à la présidentielle a été fixée à juillet prochain, 10 ans après la crise post-électorale qui avait fait quelques 3000 morts. La présidentielle d'octobre s'annonce tendue.
Les forces de sécurité maliennes sont épinglées par la MINUSMA qui les accuse d'avoir commis plus de 100 exécutions extrajudiciaires entre le 1er janvier et le 31 mars. L'armée nigérienne aussi est accusée d'avoir exécuté une trentaine de personnes sur le territoire malien pendant la même période. Le point avec Bagassi Koura.
C'est une exécution extrajudiciaire imputable à l'armée malienne. 32 cas de disparition forcée, 115 arrestations arbitraires ont été recensées par l'ONU. Guillaume Nguefa, directeur de la division des droits de l'homme de la mission de l'ONU au Mali, note que la majorité de ces violations ont eu lieu dans le centre du pays. L'ONU a également documenté 34 exécutions commises par l'armée nigérienne sur le territoire malien, dont 24 à Inekar et 5 à Anderambukane. Selon les Nations Unies, les groupes djihadistes, eux, se sont rendus coupables d'attaques contre des camps militaires qui ont fait plusieurs dizaines de morts, 39 meurtres, 46 enlèvements et 18 cas de torture entre le 1er janvier et le 31 mars. L'ONU a également documenté 34 exécutions commises par l'armée nigérienne sur le territoire malien, dont 24 à Anikar et 5 à Anderambukane. Selon les Nations Unies, les groupes djihadistes, eux, se sont rendus coupables d'attaques contre des camps militaires qui ont fait plusieurs dizaines de morts, 39 meurtres, 46 enlèvements et 18 cas de torture entre le 1er janvier et le 31 mars. Quand est-ce que des procès auront lieu? Se demande Guillaume Nguefa, estimant qu'il ne faudrait pas que la crise du Covid-19 nous distrait alors que les violations des droits de l'homme continuent dans le centre du Mali.
Les services de renseignement américains ont annoncé hier être parvenus à la conclusion que le nouveau coronavirus n'a pas été créé par l'homme ou modifié génétiquement, démentant ainsi une rumeur très répandue aux États-Unis. Ekia Badou.
Les services de renseignement rejoignent le consensus de la communauté scientifique pour convenir que le virus du Covid-19 n'a pas été créé par l'homme ou modifié génétiquement, a indiqué la Direction nationale du renseignement. Le communiqué assure que les renseignements américains vont continuer leurs enquêtes pour voir si l'épidémie a commencé par un contact avec des animaux infectés ou si elle a été le résultat d'un accident de laboratoire à Wuhan, la ville chinoise d'où est partie la pandémie. Nous sommes mécontents de la Chine, la maladie aurait pu être arrêtée à la source, a déclaré récemment le président américain. Pour Donald Trump, il y a plusieurs moyens d'engager la responsabilité de la Chine et les États-Unis mènent une enquête. Selon un sondage du centre de recherche Pew, 29% des Américains pensent que le coronavirus a été créé dans un laboratoire, intentionnellement ou bien par accident.
La Minute Éco, Nanit Talani.
En Afrique du Sud, les producteurs et vendeurs de tabac veulent attaquer en justice la décision des autorités de prolonger l'interdiction de la vente des cigarettes pendant le confinement. Le président Cyril Ramaphosa avait annoncé que les ventes de tabac allaient reprendre à la faveur de la levée progressive du confinement à compter de ce 1er mai. Mais son gouvernement a fait demi-tour et décidé d'étendre l'interdiction au nom de la santé de la population. Cette mesure a déjà fait perdre 15 millions d'euros de taxes au budget de l'État, a révélé le fisc sud-africain. La Banque centrale du Botswana a abaissé son taux directeur de 50 points de base à 4,25% dans une série d'interventions visant à amortir l'impact économique du coronavirus en allégeant les coûts d'emprunt à tous les niveaux. Pour terminer, les heures de travail dans le monde ont diminué d'environ 4,5% au premier trimestre, ce qui équivaut à une perte d'environ 130 millions d'emplois à plein temps, souligne l'Organisation mondiale du travail. Au deuxième trimestre, l'extension des mesures de confinement pourrait causer la perte d'environ 305 millions d'emplois à plein temps. Les secteurs les plus touchés sont les services d'hébergement et de restauration, l'industrie, l'immobilier, le commerce de gros et de détail et les activités commerciales internationales.
Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. La Ligue guinéenne de football professionnel a définitivement mis fin à ses championnats de Ligue 1 et Ligue 2 à cause du Covid-19. Nous ne savons pas quand est-ce que cette pandémie va partir. Avec l'approche de la saison des pluies et la présence de la pandémie, nous nous sommes dit très rapidement qu'il fallait arrêter le championnat. La fédération doit communiquer la liste des représentants des compétitions africaines pour la saison prochaine, a déclaré le président de la Ligue guinéenne de football professionnel, Mathurin Bangoura, cité par le site Foot 224. Il a ajouté qu'il n'y aura pas de montée en Ligue 1 ni de descente en Ligue 2 pour la prochaine saison 2020-2021. Fin de championnat également au Kenya, les matchs restants de la saison de la Ligue de football ont été annulés avec la nouvelle annonce du président Uhuru Kenyatta prolongeant la cessation des mouvements à Nairobi de 21 jours supplémentaires. Il n'y a aucun moyen que la Ligue se termine d'ici le 23 mai, a annoncé Nick Mundawa, président de la Fédération kenyane de football. Gor Mahia, classé premier avec 7 points d'avance sur Kakamega Homeboys, avant l'arrêt, a été déclaré champion. Il représentera le Kenya en Ligue africaine des champions la saison prochaine. En France, le Camerounais Maxime Choupo-Moting et le Sénégalais Idrissa Gana Gueye du Paris Saint-Germain sont champions. La Ligue de football a suivi les injonctions du gouvernement en annonçant l'arrêt définitif de la saison de Ligue 1, arrêtant un classement qui sacre le PSG champion de la Ligue 1. Les Parisiens décrochent ainsi leur 9e titre, égalant Marseille à une longueur du record de l'AS Saint-Étienne qui a 10 titres. Cette décision fait des heureux comme Marseille 2e et Rennes 3e, qualifiés pour la Ligue des champions, et des perdants comme Lyon, 7e, est privé d'une qualification européenne pour la première fois depuis plus de 20 ans. Toulouse et Amiens seront pour leur part relégués et Lorient et Lens promus de Ligue 2. En Espagne, la Ligue de football a prévu de commencer à tester ses joueurs au coronavirus à partir de la semaine prochaine. Son président Javier Tebas a exprimé son espoir de pouvoir reprendre le championnat en juin. Le protocole de retour à la compétition comprend le dépistage du coronavirus chez les joueurs et l'encadrement des équipes. Selon les journaux Marca et As, la Ligue prévoit de dépister les joueurs entre mardi et jeudi prochain. Ils pourraient ensuite reprendre les entraînements individuels 48 heures plus tard. Mardi, le gouvernement a donné son feu vert pour le retour à l'entraînement individuel des équipes sportives professionnelles.
Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 474 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 474 de Canal+.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Segoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République centrafricaine, l'ancien président François Bozizé rompt à nouveau le silence, rejetant les accusations de tentative de coup d'État et dénonçant une chasse aux sorcières contre son clan. Concernant le projet de modification partielle de la Constitution, il appelle le président Faustin Archange Touadéra à la prudence. Freeman Sipila, notre correspondant à Bangui, a obtenu un entretien exclusif avec l'ancien président François Bozizé.
La situation est difficile, gravement difficile, et c'est la conséquence des événements qui m'ont contraint à quitter le pays et passer proche de 7 ans d'exil à l'extérieur. Le pays est complètement détruit, une grande partie du territoire est occupée par les rebelles, et l'économie est par terre, l'administration n'existe presque pas, et nous y sommes, mais c'est pas facile.
Vous parlez d'une chasse aux sorcières menée par le régime du président Touadéra contre votre clan. Quelles en sont les raisons?
Vous savez, nous nous approchons des élections. À partir de là, tout est permis, toutes les stratégies sont mises en marche. Et lorsqu'il s'agit d'un candidat aussi populaire que Bozizé, je vous laisse le soin de deviner que toutes les stratégies, bonnes ou mauvaises, on peut les utiliser pour pouvoir écarter X, Y, Z, et je pense que nous le vivons. Et c'est un phénomène de peur, d'inquiétude depuis mon arrivée.
Vous pensez que votre retour au pays fait peur?
C'est ça, exact. Je vais rencontrer le chef de l'État à plusieurs reprises. Nous nous sommes parlé franchement. Je l'ai rassuré que je suis venu pour la paix, non pas pour nuire à qui que ce soit. Et que tout doit se dérouler dans le cadre démocratique. Je me limite à cela tout simplement.
Un projet de révision partielle de la Constitution est en cours. Elle est initiée par une partie des députés afin d'éviter un vide constitutionnel au cas où les élections ne se tiennent pas en décembre prochain en raison du Covid-19. Qu'est-ce que vous en dites?
Non, c'est une situation qui n'est pas bonne. Elle est dangereuse et elle est inopportune. Nous avons plusieurs défis. La sécurisation du pays, la pandémie du Covid-19 et maintenant ajouter encore des problèmes d'ordre social, politique. Non, il faudrait bien éviter cela et nous demandons au chef de l'État de un peu plus de sagesse et éviter à ce que nous connaissons ceux que nous avions connus auparavant. Et si aujourd'hui le pays se trouve dans cet état, c'est bien. Les conséquences du non-respect de la Constitution à l'époque.
Vous avez modifié la Constitution en 2010. Est-ce que ce n'est pas le même schéma?
Non, en 2010, la Constitution le permettait. Et c'est pour cela que l'Assemblée nationale a voté cette loi. C'était à l'époque où j'étais président de la République. Et l'opposition souhaitait que ce soit un accord politique qui puisse résoudre cela. Alors que la Constitution était là, il fallait l'appliquer. C'est ce que l'Assemblée nationale avait fait à l'époque. Or, la Constitution actuelle ne le permet pas. C'est bien précisé, il n'est pas question de quoi que ce soit.
Certains chefs anti-Balaka, dont Alfred Rambeau et Patrice Edouard Ngaïsouna, sont en prison alors que certains responsables de la SILICA à l'origine du renversement de votre régime en 2013 ne sont pas inquiétés.
Bon, c'est regrettable. Votre question dit clairement qu'il y a une injustice. Mais qu'est-ce que vous voulez? La justice est indépendante. Laissons la faire. Nous pensons que le temps est là pour clarifier les choses.
Vous n'avez pas peur d'être appelé un jour devant la justice?
Oh, vous savez, j'ai la conscience tranquille.
François Bozizé, merci.
François Bozizé, ancien président centrafricain.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
En République démocratique du Congo, les Banyamulenge ont saisi le secrétaire général de l'ONU pour faire cesser les exactions dont ils disent être l'objet dans les hauts plateaux du Sud Kivu, de la part des milices locales et des pays voisins. Eddie Isango a joint ici aux États-Unis le vice-président de Maoro Peace Association, Jacques Bourinda.
Des témoins oculaires font état de certains éléments de la FRDC qui assistent le milicier à leur donnant une aide, soit en termes de logistique, pour attaquer le village Banyamulenge, pour piller leurs vaches. Nous avons demandé à ce que les Nations Unies puissent intervenir en fait de protéger la population Banyamulenge en parlant à notre gouvernement, en envoyant aussi l'aide humanitaire. Il y a des villages entiers déplacés, ça fait de cela plus de 6 mois qu'ils sont dans ce village sans aucune assistance humanitaire. Ils sont vraiment affamés, ils sont sans accommodation, sans maison, sans quoi. Donc nous avons demandé à ce qu'ils puissent assister ces déplacés de guerre. L'autre demande que nous avons réitérée au niveau de la Secrétariat des Nations Unies, c'est de parler aux pays voisins, afin qu'ils puissent collaborer avec notre pays, afin de pouvoir arrêter ces miliciens étrangers qui sèment la terreur et la mort à une population innocente de Banyamulenge, de villageois qui n'ont commis aucune faute. Nous avons demandé à ce qu'ils interviennent, qu'ils parlent aux pays voisins, notamment le Burundi, le Rwanda et les autres pays qui sont de près ou de loin impliqués dans ce genre de conflit, afin de pouvoir faire la pression, de combattre ces miliciens, de les arrêter, de les traduire en justice. C'est leur travail, ensemble bien sûr avec notre pays, la RDC. Nous avons aussi parlé de désarmement même des miliciers Maïmaï par notre gouvernement et de pouvoir intervenir surtout dans le domaine de restaurer la paix, et mais aussi l'effectivité même du pouvoir de l'État dans cette partie du pays où c'est vraiment la jungle, où c'est le milicien qui sème de la terreur et la mort. Ce qui se passe pratiquement, c'est de l'épuration ethnique et ce n'est pas vraiment admissible.
Il y a eu beaucoup de négociations et ce qu'on a appelé des pré-dialogues entre les communautés dans les hauts plateaux du Sud Kivu. Mais qu'est-ce qu'ils ont donné? Qu'ont-ils donné?
Les recommandations, par exemple, quand je parle du cas des Banyamulenge qui ont été soumis au gouvernement, c'est devenu franchement donc lettre morte. Nous attendons encore une fois qu'il y ait une réunion intercommunautaire après la série des réunions intracommunautaires. On ne sait pas pourquoi, apparemment avec le COVID-19, tout a été arrêté reporté à une date ultérieure.
Autant que vous accusez les autres groupes ethniques et leurs milices, d'autres groupes ethniques vous accusent aussi, vous et votre groupe, la milice Ngoumino, de les attaquer.
C'est pas vrai, parce que tout le monde sait que les populations qui sont visées, ce sont les populations Banyamulenge qui sont attaquées par toutes les forces négatives, et Maïmaï, Retabara, donc Forebu et FNL. Nous savons et nous avons toujours déploré que en fait, le problème principal, c'est la manipulation même des miliciens Maïmaï par les forces étrangères qui ont d'autres visées et qui viennent semer la terreur dans notre pays.
Jacques Mourinda, vice-président de Maoro Peace Association.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
La première victime du COVID-19 en Afrique subsaharienne est-elle vraiment décédée de la pandémie? La question fait polémique au Burkina Faso après qu'un journaliste d'investigation a révélé que la députée Rose-Marie Compaoré n'a jamais été testée pour le Covid, contredisant la version officielle. Le gouvernement semble admettre ces faits et a démis de ses fonctions mercredi, comme nous vous le disions, le professeur Martial Ouedraogo, qui était le coordonnateur de la lutte contre la pandémie dans le pays. Retour sur la genèse de cette controverse nationale au Burkina Faso avec Yacouba Ladji Bama, célèbre journaliste d'investigation, par qui tout a commencé.
Au-delà de la simple annonce que la dame est décédée de ce virus, rien, absolument rien, ne venait en tout cas attester que ça était vraiment de ce virus-là. Quand je dis rien, ça veut dire quoi? D'abord, on annonce que la dame est décédée du coronavirus. Le bulletin d'examen qui atteste cela est invisible. La famille demande d'avoir le bulletin. Impossible de leur donner ce bulletin. Ensuite, le prélèvement qui a conduit à ce prétendu examen qui révèle ce virus, le mari de la défunte n'a jamais été informé à un moment donné qu'on devait faire un prélèvement sur sa défunte épouse pour aller faire un examen. Ensuite, absolument rien, plusieurs jours après le décès, absolument rien n'a été pris comme précaution. Non seulement le domicile n'a pas été désinfecté, le mari n'a pas été testé pour voir où il en est, est-ce qu'il est contaminé ou pas, résolument pas du tout.
La ministre de la Santé était devant les députés, elle a été interrogée sur la question, qu'est-ce qu'elle a dit?
Elle a menti à l'Assemblée nationale que le domicile avait été désinfecté et que la famille avait bénéficié d'un certain suivi, contrairement à ce que la police disait jusque-là. Alors, quand ça a été dit devant l'Assemblée nationale, en sachant que la réalité était tout autre, alors franchement, ça suscitait encore plus d'indignation dans l'opinion. Les réseaux sociaux se sont emballés. et être obligé, face à cette pression-là, d'entendre ses collaborateurs qui lui ont avoué que le domicile n'a jamais été désinfecté, ni la famille n'a jamais été rencontrée par aucun service médical ou quoi que ce soit. Alors, donc, quand elle a fait ses aveux-là, nous les avons encore rapportés à l'opinion. Et là, voilà, ça conduit au limogeage du coordonnateur national de la réponse à la COVID-19 au Burkina Faso.
Alors, vous qui suivez ce dossier depuis le début, est-ce qu'il s'agit d'incompétence, d'erreur, ou bien est-ce qu'il s'agit juste de mensonges à ce niveau de l'État?
Alors, moi, je vais peut-être dire, je vais dire que c'est une conjugation d'incompétence et de mensonges à la fois. Incompétence et mensonges parce que, comme je l'ai déjà expliqué, il y a eu beaucoup de mensonges dans cette affaire depuis le départ. Et ce n'est pas que ce cas seulement, hein. Il y a beaucoup de cas à polémique comme ça, de décès au Burkina, où les parents ne sont pas du tout d'accord que leur regretté soit vraiment mort de la COVID-19. Il y en a beaucoup. Les gens sont tellement nombreux que souvent on se demande si vraiment ce gouvernement est sérieux.
Le journaliste d'investigation Yacouba Ladjibama joint à Ouagadougou.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Le Ghana s'est engagé à construire des hôpitaux et à prendre le meilleur parti des nouvelles technologies pour mieux répondre à l'épidémie de COVID-19. La société Zipline de la Silicon Valley utilise des drones pour transporter dans des laboratoires des échantillons prélevés sur les patients infectés par le virus afin de permettre au gouvernement de surveiller plus rapidement la propagation de la maladie. Reportage de Stacy Knott à Accra, repris ici par Nathalie Barge.
Dans un discours à la Nation le 26 avril, le président Nana Akufo-Addo a déclaré que le coronavirus avait exposé les lacunes du système de santé ghanéen en raison d'années de sous-investissement et de négligence. Il s'est engagé à faire des investissements majeurs dans les infrastructures, avec notamment la construction de 88 hôpitaux de 100 lits.
Nous ferons ces investissements dans notre système de santé, non pas parce que cela va être facile, mais parce qu'il est évidemment nécessaire de répondre aux besoins du Ghana du 21e siècle.
Monsieur Akufo-Addo a déclaré que le virus a également mis en évidence le rôle crucial des services d'urgence. Il a fait référence à la société Zipline qui opère depuis un an et joue un rôle actif dans la lutte contre le virus. L'entreprise fournit des échantillons de tests COVID-19 provenant des zones rurales aux deux laboratoires de tests du pays, à Accra et Kumasi. Elle envoie également du matériel de protection aux centres de santé ruraux. À partir des centres de distribution, les livraisons sont envoyées par drone qui mettent en moyenne 30 minutes pour arriver à destination, précise Daniel Marfo, directeur de Zipline au Ghana.
Dès qu'ils ont un cas suspect de COVID-19, ils contactent Zipline. Grâce au transport multimodal, nous sommes alors en mesure de les atteindre, de prendre leurs échantillons, et le drone les amène au laboratoire à partir de notre centre de distribution.
Cosmas Tibé Makou, un agent de contrôle de la maladie, utilise les drones de Zipline pour livrer des échantillons de patients dans le district rural de Sékéré Central, où la plupart des routes sont en mauvais état.
Une fois prélevés, les échantillons doivent arriver au laboratoire dès que possible afin d'assurer la qualité du test. Ainsi, en comparant la méthode traditionnelle de transport, qui est par la route, et la technologie des drones, on se rend compte que le transport d'échantillons par zipline est plus judicieux en termes de temps, de coûts et de risques.
Les agents de santé disent espérer que les services de drones soient étendus au transport d'autres types d'échantillons médicaux et que ce procédé puisse continuer après la pandémie de coronavirus.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde d'aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idriss Sassé-Biga et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA.